CFM spéciale élection.
Oh, je ne fais pas du tout politique, monsieur. Je m'excuse.
Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections.
Après, le reste, en politique, je ne connais rien.
Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages.
Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne.
Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace.
À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.
Philippe Molinier, vous êtes enseignant-chercheur et vous êtes surtout candidat à la députation sous l'étiquette, si on peut dire, lutte ouvrière et dans la circonscription, la deuxième circonscription de l'Aveyron, Villefranche-Terouergue de Casseville. Et je paraît nécessaire parce que les documents de campagne que j'ai eus ne vous présentent pas vous. Vous, Philippe Molinier, on sait par votre document que vous êtes enseignant-chercheur. On ne connaît pas votre âge, votre situation familiale, ce que vous cherchez. Voilà, si vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots.
Oui, bonjour. Donc, effectivement, j'ai 52 ans, je suis célibataire et je suis enseignant-chercheur en région parisienne. Pour répondre quand même un petit peu à votre interrogation, donc pourquoi on ne s'étend pas sur notre vie privée, c'est que on mène une campagne sur des thèmes largement nationaux, et puis surtout, beaucoup de candidats expliquent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vont faire, etc., en tant que futurs députés, etc. Bon, nous, on va pas, faire ce... pour utiliser un mot, cette comédie-là, disons. On représente un courant et on veut mettre... Nous, on pense fondamentalement que la société peut changer si le monde du travail s'organise. Et c'est cette idée-là qu'on veut mettre en avant. Donc, c'est un peu ce choix est lié aussi à cette idée.
Est-ce que ça veut dire que vous auriez pu être candidat dans la cinquième circonscription du Pas-de-Calais ou la deuxième des Alpes-Maritimes? Qu'est-ce qui vous a amené à être en Aveyron?
Bien sûr, je suis en Aveyron parce que c'est un endroit où j'ai des attaches et où donc on est un petit parti, on est ouvrière, donc on est, on fait le choix de se présenter partout, dans toutes les circonscriptions de la France métropolitaine. On pense que ça peut permettre à ceux qui ont suivi notre courant et qui se sont reconnus dans ce que disait Nathalie Arthaud dans la campagne des élections présidentielles, de refaire ce geste dans les élections législatives pour affirmer justement ce qu'on appelle le camp des travailleurs. Donc, qui est un camp qui existe véritablement dans la société et qui prend des coups aujourd'hui sans nous les rendre. Et c'est un véritable problème. Et nous, on veut affirmer un certain nombre de choses un peu partout. Alors, ça ne veut pas dire que on est. Les problèmes qui se posent dans les différents endroits peuvent être un peu différents, mais c'est vraiment une société partout.
Dans votre programme, c'est pas une nouveauté chez Lutte Ouvrière, hein, on vous connaît depuis un certain nombre d'années, en premier lieu, vous indiquez l'interdiction des licenciements. Alors ça m'a toujours frappé, cette interdiction des licenciements, parce que je pense à l'artisan local qui a 2 salariés, qui n'a plus de clients, il fait comment lui pour ne pas licencier et pour... on le lui interdit. Ça va jusqu'où, cette interdiction des licenciements, et ça avance à quoi quand on sait que l'artisanat est le premier employeur de France?
Écoutez, je pense qu'il faut prendre le problème par l'autre bout. Aujourd'hui, les petits artisans, et c'est vrai aussi pour les agriculteurs, pour les travailleurs indépendants, ils sont en fait sous la pression d'un marché qui est dominé par des très grosses entreprises. Et on le voit en Aveyron, par exemple, pour tout ce qui est la sous-traitance, au niveau, comprenez, des entreprises comme Bosch, Rodez ou les sous-traitants de l'aéronautique, comme Lizzie à Villefranche, ils sont dépendants d'entreprises encore plus grosses, comme dans certains cas Renault ou Airbus. Bon, et derrière, il y a tout un tissu social. Et nous, on pense que il faut interdire les licenciements, bien entendu, avant tout dans ces grands groupes qui font des profits. Mais c'est toute une chaîne, si vous voulez, parce que beaucoup de PME sont aussi des filiales de parfois de grands groupes. Et donc, oui, effectivement, nous, on parle des problèmes des travailleurs. Et si un artisan n'a pas les moyens de garder quelqu'un, on peut peut-être justement voir ce qui pourrait lui faciliter les choses. Les petits artisans ne sont pas nos ennemis. Mais aujourd'hui, le chômage qui est dans cette société, il est absolument scandaleux que des gens puissent perdre leur gagne-pain. Voilà, il faut inverser le cours des choses. Il faut que tous puissent trouver une place dans cette société. Et nous, on parle de ce point de vue-là.
Dans notre entretien préalable, vous inquiétiez de la loi sur le code du travail qui se profile, enfin qui sera proposée en Conseil des ministres. Donc vous avez d'une part un point de vue là-dessus, j'en doute pas, et d'autre part, quels vont être vos moyens pour vous y opposer. Vous n'avez pas l'air de penser que vous serez député, mais en attendant, vous comptez vous opposer, j'ai cru le comprendre.
Oui, bien entendu. De toute façon, même celui qui sera élu député, même avec les meilleures intentions du monde, ne pourra rien faire contre ces attaques. Les seuls qui seront en mesure de poser une véritable résistance à ces attaques, exactement comme par rapport à la loi El Khomri il y a quelques mois, ce sera les travailleurs eux-mêmes. Et nous, c'est pour affirmer cela aussi que nous faisons campagne. Parce que aujourd'hui, les choses sont relativement claires dans les projets du gouvernement. Donc ils ont annoncé un recul pour les salariés, l'idée de négocier entreprise par entreprise. Bon, dans une situation justement où le chômage fait une énorme pression sur les salariés, on voit ce que ça veut dire. On fait accepter aux syndicats des reculs, et sous prétexte de créer ou de maintenir des emplois, puis au final les emplois sont supprimés quand même. Donc nous on pense qu'il faudra préparer effectivement des mouvements sociaux de grande ampleur.
Alors, vous venez de nous dire qu'il faudrait aider les tout petits employeurs s'ils sont en difficulté. Dans votre programme, on voit la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Et de toute façon, des salaires et des pensions qui ne soient pas inférieurs à 1800 euros. C'est une ample distribution, si je puis dire, parce que le partage du travail, mais à salaire égal, tout ça conduit à une augmentation des coûts de production ou des impôts. Vous résolvez ce qui me paraît être une contradiction, vous la résolvez comment ?
Écoutez, si c'est une contradiction qu'au XXIe siècle, chaque salarié, chacun, que ce soit les retraités, que ce soit, puisse avoir 1800 euros par mois, nous, on calcule cette somme, c'est pas une somme qu'on a déterminée au hasard, c'est tout simplement qu'en dessous de cette somme-là, on ne peut pas véritablement vivre dans cette société, compte tenu du montant des loyers, compte tenu de la situation. Bon, donc, les richesses existent, là aussi, nous, on parle des problèmes des travailleurs. Et effectivement, on met les gens en concurrence, on nous explique que le coût du travail est trop élevé. Nous, on part du principe qu'il y a beaucoup d'argent dans cette société, que les grandes fortunes ont augmenté. Tout le monde le sait, je dirais, c'est des données qui sont largement connues. Les grands groupes, je parlais d'Airbus tout à l'heure, ils ont de l'argent, ils continuent à supprimer les emplois, à faire pression sur les salaires, via notamment la sous-traitance, c'est absolument pas normal. C'est pas normal que, par exemple, dans une entreprise comme la SAM à Decazeville, les travailleurs soient depuis des années soumis à un chantage alors que l'entreprise tourne à fond, que les gens font un boulot dur, une menace finalement sur l'avenir de leur boulot.
Vous nous rappelez ce que fait l'entreprise La Salle ?
La Salle, elle travaille essentiellement pour Renault, donc ils font des cartels, ils font des pièces pour l'automobile, et donc les travailleurs se sont mobilisés à plusieurs reprises, y compris récemment. D'ailleurs, ils ont montré que leur travail était indispensable à Renault, puisque en quelques jours de blocage des portes de l'entreprise, ils ont obligé Renault justement à reculer, parce que tout ça fonctionne à flux tendu. Mais les salariés, eux, sont toujours sur la sellette. C'est bien ça le problème.
Dans votre document de campagne, vous indiquez que l'argent public doit aller au service public et vous évoquez comme service public l'éducation, la santé et les transports. Je veux croire que vous imaginez qu'il y a d'autres services qui doivent être alimentés par l'argent public ou c'est nettement secondaire par rapport à l'éducation, la santé et les transports.
Oui, bien sûr, il y a la recherche, il y a des tas de choses. Là, cette illustration, elle est simplement pour montrer et pour défendre l'idée que depuis des années, on est quand même dans une situation où les gouvernements, sous prétexte de lutte contre le chômage, ont fait, par exemple, le crédit impôt recherche, le crédit impôt compétitivité, etc., etc. Au final, le résultat est catastrophique. On a une poignée de grands groupes qui a suffisamment d'influence pour se partager toute cette manne financière, et le chômage continue à progresser, il ne crée pas d'emplois pour autant. Donc nous, on dit que l'État devrait créer des emplois dans les services publics directement, des emplois utiles à la population. Et ça va au-delà d'ailleurs de ce que effectivement vous citiez, parce qu'il y a aussi la création de tous les logements qui manquent. Et ça, ça pourrait être aussi un service public. Je ne vois pas pourquoi ce serait des entreprises comme Bouygues et autres qui s'enrichiraient toujours sur les contrats publics.
Est-ce que vous imaginez que le gouvernement ou les collectivités, outre de mettre de l'argent pour construire des logements, initient carrément des entreprises de bâtiments qui seraient des entreprises publiques ?
Mais vous savez, dans la société actuelle, finalement, il y a beaucoup de choses qui tournent justement parce que c'est finalement l'État qui apporte l'argent d'une certaine manière, avec l'argent des contribuables. Donc, l'efficacité hein, de ces grandes entreprises, c'est une efficacité pour fournir de l'argent aux actionnaires. Hein. Mais bien sûr que très souvent, c'est quand même l'État qui fournit les moyens. Donc, nous, bien sûr, oui, on n'est pas pour que les marchés publics soient des sources d'enrichissement pour une minorité et que la population paye sans en voir finalement les bénéfices. C'est tout à fait logique.
Je vous pratique depuis des années en interview je vous vois depuis des années défendre les travailleurs et on a le sentiment que pour vous c'est exclusivement les salariés des grands groupes, mais il y a aussi des salariés de très petites entreprises, aussi des travailleurs, tout à fait travailleurs, qui sont indépendants. Qu'est-ce que vous proposez pour eux? Qu'est-ce que vous comptez faire pour eux?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de travailleurs, de plus en plus d'ailleurs, qui sont dans une situation souvent bien pire que celle des salariés des grands groupes, hein, qu'on oblige, parce que c'est pas un choix de leur part, hein, c'est un choix forcé, donc on les oblige à se mettre avec un statut d'indépendant, ils ont toutes les charges à assumer, hein, donc on entend beaucoup parler d'Uber, mais c'est pas seulement ça. Bon, et bien sûr que ils sont aux premières loges. Et nous, vous savez, toute notre logique, c'est pas de faire quelque chose pour les travailleurs. On est convaincu qu'il faudra que les travailleurs le fassent eux-mêmes. Et dans ce combat-là, oui, tous les travailleurs sont concernés. On parle des grands groupes surtout parce qu'on dit que c'est ce qui permettrait, c'est là où est la clé du problème aujourd'hui.
Bien.
L'économie est dominée par ces grands groupes.
Dans vos documents, et puis c'est pas une nouveauté, vous vilipendez les partis politiques de la bourgeoisie, et en même temps vous indiquez aussi qu'il faut reconstruire un parti qui incarne les perspectives que vous défendez. Je dirais comment vous défendez, parce que je dirais il y a des partis qui ne semblent pas être de la bourgeoisie, hein, le Parti communiste, les Insoumis, qui eux s'y collent, si je puis dire, hein, ils souhaitent y avoir des députés et participer à la représentation nationale. Et vous, il est clair que vous vous en excluez. Est-ce que c'est pas un peu facile de traiter les autres de bourgeois et de rester sur sa colline ou dans son trottoir à porter ses pancartes?
Non, je ne crois pas qu'on ait traité, je dirais, que ce soit des militants du Parti communiste ou même ceux qui font campagne pour les Insoumis, de bourgeois. Le problème, il est à un autre niveau. Il est que toutes leurs perspectives politique, c'est une perspective de s'intégrer dans ce système-là, c'est-à-dire de faire croire que ça ira mieux s'il y avait beaucoup de députés pour la France insoumise ou pour le Parti communiste. On a déjà expérimenté ces solutions-là dans le passé. Hein. Il y a eu la gauche au gouvernement pendant des années avec des ministres communistes, etc. Ben, nous, on pointe du doigt derrière ce système politique, le système capitaliste. Et on pense, et c'est là où on se retrouvera certainement dans les manifestations avec des gens qui peuvent voter pour Mélenchon, pour le Parti communiste, c'est qu'il faudra une élite. Et on est un peu les seuls à le dire, de fait. Et c'est ça, effectivement, qui nous différencie. Et on pense qu'il faudra recréer un parti, qui soit un parti qui s'appuie sur les luttes des travailleurs et qui ne cherche pas à les marchander pour finalement amener... servir de marchepied à des politiciens qui ensuite auront des postes de député ou de ministre, et rien ne changera.
Bien, bien Philippe Molinier, si, à moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose, bien volontiers, mais on est arrivé au terme de cet entretien, si vous souhaitez ajouter quelque chose.
Oui, je voulais quand même ajouter une chose importante pour nous, c'est que on est communiste, c'est-à-dire qu'on pense que ce système-là ne donnera pas d'avenir à l'humanité. Et on ne demande pas aux gens de voter là-dessus, mais c'est quelque chose quand même qu'il fallait que j'ajoute.
Bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez éclairé vos électeurs, parce que vous vous tournez tout de même vers eux. Philippe Magnier, je vous remercie.
Au revoir.
CFM spéciale élection.
Oh là là, je ne fais pas du tout politique, monsieur. Je m'excuse.
Alors là, pas du tout.
Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections.
Après, le reste, la politique, je ne connais rien.
Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages.
Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne.
Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace.
À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.